Chers auditeurs de notre radio chrétienne, bienvenue dans cette nouvelle émission de Lectio Divina. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'Évangile selon saint Jean, et plus particulièrement sur la fin de la dernière scène. L'évangéliste Jean consacre près d'un quart de son Évangile à décrire les événements de la dernière scène. Le lavement de pieds des apôtres par Jésus et le long discours d'adieu, il montre ainsi comment Jésus prépare les apôtres à l'avenir, aux difficultés qu'ils rencontreront après son départ. La Pâque juive traditionnelle devait être célébrée dans l'enceinte de Jérusalem et ceux qui n'y résidaient pas louaient un lieu approprié. Nous sommes, dans ce passage d'aujourd'hui, dans le cénacle, loué par un groupe d'apôtres. Les repas de la Pâque duraient normalement jusqu'à minuit, et ce que Jean décrit semble avoir eu lieu après les repas traditionnels. Donc nous pouvons imaginer les disciples réunis au cénacle lors du repas d'adieu avec Jésus. Demandons à Dieu le Père de nous révéler de plus en plus son visage. Demandons aussi à Jésus de nous faire découvrir son visage dans nos semblables et en nous-mêmes, afin que nous soyons nous-mêmes une révélation du Père. Viens Esprit Saint, remplis-nous de la lumière de ta grâce. Parle au plus profond de nos âmes et guide-nous dans les voies de la volonté du Père. Viens, Esprit Saint, et prie en nous. Esprit Saint, intercède pour nous auprès de Dieu. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Nous écoutons l'Évangile selon saint Jean, le chapitre 14, les versets de 1 à 12.
Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai, et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes.
Que votre cœur ne se trouble pas. Face à son départ imminent, Jésus fait ses adieux au cénacle, à ses apôtres, à ses disciples, à ses amis les plus proches. Apparemment, ils ont l'air un peu effrayés, car il les encourage à ne pas laisser leur cœur se troubler. Et ce qui devrait dissiper cette inquiétude, c'est la foi en Dieu combinée à la foi en Jésus. Cette foi confirme que dans la maison de Dieu le Père, de nombreuses demeures les attendent, eux, ses enfants, et que Jésus lui-même va leur préparer une place. Et ce n'est que lorsqu'il aura préparé cette place, il reviendra les chercher pour qu'ils soient là où il sera déjà. Jésus révèle aux apôtres la profondeur des intentions de Dieu. « Je vais vous préparer une place, puis je reviendrai. » signifie au fond « Je vais aller à la croix pour mourir pour vous, car par la mort et la passion, je vous préparerai une place. Mais ensuite, je reviendrai et je ne vous quitterai plus. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus qui est monté au ciel reviendra pour prendre dans la maison du Père tous ceux qui croient en lui et qu'il aime. Cette venue se réalise pour l'individu au moment de la mort et pour tous les hommes au jour de la seconde venue en gloire du Sauveur à la fin du monde, ce qu'on appelle l'Apocalypse. Après l'annonce de la trahison de Judas, les disciples ressentent de la peur et de la consternation, de la confusion. Jésus les rassure « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez confiance. » De même qu'ils ont eu confiance en lui jusqu'à présent, ils peuvent, après le départ de Jésus, s'en remettre entièrement à Dieu le Père. Dieu ne les laissera pas orphelins. Il enverra l'Esprit-Saint pour les guider. En partant vers le Père, Jésus assure les disciples qu'il les amènera chez lui, dans la maison de son Père. Et la maison du Père ne signifie pas un bâtiment, mais plutôt une atmosphère, un foyer de maison, d'affection et de liens familiaux étroits. Il s'agit d'un sentiment de chaleur, d'intimité, de cordialité, mais qui constitue le sentiment d'être chez soi. D'autre part, les mots « habitation », »,« maison » rappellent un ancien bâtiment monastique ouvert, accueillant, avec de nombreuses pièces dans lesquels on fait l'expérience d'une atmosphère fraternelle de bonté, d'amitié, d'amour, qui est comme une arche de Noé, où chacun se sent chez soi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Chacun peut donc l'accepter avec confiance pour lui aussi. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, ni spirituellement ou moralement parfait. Nous avons besoin d'être fidèles. D'ailleurs, aucun de nous n'est pas parfait, mais nous pouvons, avec nos misères, mais nous pouvons rester fidèles. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire confiance et de mettre notre confiance en Jésus et par Jésus en son Père, Dieu. Qu'est-ce qui trouble nos cœurs? Face à l'éventualité de la mort, des angoisses, de peur, se réveille dans nos cœurs? Comment est-ce que je me représente la maison du Père? Est-ce que je crois qu'il y a aussi une place dans cette maison pour moi et pour mes proches? Lors de la dernière scène, Philippe demande à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Ce faisant, il exprime les pensées, les désirs qui ont troublé les apôtres et qui troublent tout être humain vivant sur la terre. Nous désirons voir Dieu. mais pas seulement les voir. Nous voulons les toucher, l'embrasser, les comprendre, et souvent l'enfermer dans nos propres visions, schémas, désirs, nos besoins. Il en va de même pour Judas, qui tente d'imposer à Jésus un idéal politique du Messie, et qui, lorsque Jésus ne se conforme pas à ses attentes, il est trahi. Il en va de même pour Pierre, qui tente à plusieurs reprises de manipuler Jésus, de lui imposer sa volonté, de l'enfermer dans une tente sur le mont Tabor, ou même de s'approprier son rôle du sauveur dans le jardin. C'est ce qui fait Marie-Madeleine après la résurrection, lorsqu'elle veut garder Jésus pour elle et qu'elle a du mal à comprendre le nouveau mode spirituel de sa présence. C'est ce que chacun de nous fait dans une certaine mesure. Beaucoup parmi nous projettent sur Dieu leurs propres expériences, leurs vécus, leurs blessures. Et c'est pourquoi on entend aujourd'hui tant de fausses paroles sur un Dieu à qui on ne peut pas faire confiance. Mais ce n'est pas le vrai visage de Dieu. Mais ce n'est pas le visage de Dieu tout court. C'est plutôt le visage de l'homme qui rend un faux témoignage à Dieu, qui lui attribue ce qui est proprement humain. Jésus exprime aux disciples sa conviction qu'ils connaissent le chemin où il va et qu'ils pourront donc l'emprunter à l'avenir. Mais au nom de tous, Thomas déclare qu'ils ne savent pas où va leur maître. Il exprime donc un doute quant à la manière dont ils peuvent connaître le chemin. À ce doute, Jésus répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Il y a beaucoup de chemins erronés qui égarent dans la vie, alors que Jésus et son évangile, contenu dans son exemple, est le seul chemin sûr qui mène à un bonheur complet et durable. Avons-nous déjà découvert Jésus, qui est le seul chemin qui mène au Père et à la plénitude de la vie? L'acquisition de la vérité est le but fondamental de notre raison humaine. C'est Jésus qui est la parole de vérité, la réponse à toutes les questions les plus profondes du cœur humain. Lui seul révèle pleinement à nos yeux le mystère sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Avons-nous déjà découvert Jésus qui est la vérité, cette vérité qui nous rend libres en nous révélant la vérité sur nous-mêmes? Tout être humain aspire à vivre pleinement sa vie. La véritable plénitude de vie ne peut être trouvée que dans la personne de Jésus, qui est mort pour nous et ressuscité pour nous. Il est le seul à pouvoir satisfaire le cœur de l'homme. Il lui donne la force et la joie de vivre, indépendamment des limites extérieures ou des obstacles à la vie qui nous affectent. Avons-nous déjà découvert Jésus, qui est notre vraie vie? Quels sont mes désirs, mes aspirations et mes questions les plus profondes? Quelles questions aimerais-je poser à Jésus aujourd'hui, pendant cette méditation? Lorsque Philippe demande à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », Jésus se lamente en disant « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas encore appris à me connaître. » Et lui explique ainsi qu'aux autres disciples, « Celui qui m'a vu a aussi vu le Père. » Qu'est-ce que les disciples ont pu penser à ce moment-là? En voyant l'attitude de Jésus, là au Cénacle, ils auraient pu découvrir le visage de son Père. Comment révèle-t-il ce visage au Cénacle lors de la dernière scène? D'abord, comme un visage servile, lors du lavement des pieds, mais aussi comme un visage amical, puisque Jésus les appelle « mes amis ». Mais Philippe pouvait aussi se rappeler toutes les attitudes de Jésus qu'il avait observées depuis son appel jusqu'au moment où, au Cénacle, il lui propose de leur montrer les pères et où il entend la réponse. Ainsi, il s'est probablement souvenu du visage joyeux à Cana et du visage en colère lors de l'expulsion de collecteurs d'impôts dans le temple. Il a pensé au visage d'une personne ouverte aux problèmes des autres, comme dans la conversation avec Nicodème. Il pouvait penser au visage d'une personne qui donne du temps et de l'espoir à une personne perdue, comme dans la rencontre avec la Samaritaine. À son tour, il peut voir les visages de quelqu'un qui prend en charge les discours difficiles dans l'enseignement et qui est prêt à laisser partir ses auditeurs. Plus loin, il peut voir un visage compatissant avec la femme adultère, un visage amical envers la famille de Béthanie, un visage divin lors de la transfiguration, et enfin un visage royal lors de l'entrée solennelle à Jérusalem, et un visage d'amour tout court, tout au long de l'Évangile. L'image déformée de la paternité humaine que nous vivons dans la situation sociale actuelle nous présente une certaine difficulté, même en même temps une opportunité, pour découvrir les visages de Dieu le Père. Cette opportunité vient du fait que les déficiences de toute expérience humaine de la paternité peuvent contribuer à falsifier l'analogie entre la paternité humaine et la paternité de Dieu. Quel visage du Père voyons-nous à travers Jésus? Comment la contemplation de la vie de Jésus affecte-t-elle l'image que nous avons de son Père, qui est aussi le nôtre? Mais Jésus va encore plus loin. Les visages de Dieu se trouvent dans l'être humain, dans les disciples de Jésus, en nous-mêmes. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et même des œuvres plus grandes que celles-là. Nos actes semblables à ceux de Jésus, et même plus grands, révèlent Dieu. Ce sont des actes de pardon, de miséricorde, de sacrifice, de dévouement, de bonté, d'amour, d'amitié. Nous nous plaignons parfois du monde impie aujourd'hui, en poignant du doigt les personnes qui mènent de vies contraires à l'éthique, à l'Évangile. D'un autre côté, nous ne nous demandons pas pourquoi ils ne croient pas ou pourquoi leur vie est embrouillée. En réalité, ces personnes ne sont pas tant des incroyants que des ignorants, parce qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils n'ont pas vu le visage de la miséricorde et de l'amour dans leur vie, L'homme qui connaît le vrai visage de Dieu ne peut pas le rejeter. L'homme qui connaît l'amour ne peut pas ne pas désirer s'y plonger complètement. Nos cœurs et nos actions peuvent et doivent susciter chez les autres un désir de Dieu, un désir de connaître le vrai visage du Père. Est-ce que je découvre le vrai visage de Dieu dans la personne, la mission et la vie de Jésus? Quel genre de Dieu mes actions révèlent-elles? Suis-je conscient que l'homme, chaque homme, est un reflet de la beauté de Dieu? Nous t'invitons Jésus dans nos cœurs et nous te confions nos désirs qui ont surgi en nous pendant la prière. Nous te demandons que nos cœurs, face à la possibilité de la mort, soient pleins de foi, que Dieu, comme un Père aimant, nous attend, nous, ses enfants, pour nous donner une demeure préparée dans le ciel. Jésus, nous t'en supplions, deviens pour nous l'unique chemin qui mène au Père et qui mène à la plénitude de la vie, afin qu'en toi, nous puissions trouver les vraies réponses à toutes les questions les plus profondes de notre cœur d'homme. Amen.